J'ai dit que la naissance de l'Amérique, la naissance, la reconnaissance de l'Amérique par Christophe Colomb, était le début, le point premier, enfin dans nos légendes actuelles, qui ne parlent pas encore des Aztèques et des Incas, c'est le point de départ. Mais en même temps que ça se produisait, il y avait ce mouvement prophétique dont je vous ai donné un exemple, en Europe avec Thomas More, et l'Utopie, ou avec les essais de Montaigne, mais qui, c'est vrai, de la plupart des grands écrivains du XVIe siècle. Et il y a un troisième phénomène qui se passe en même temps, et ce n'est pas par hasard que ces choses-là se passent. Il y a même deux autres phénomènes qui se passent en même temps, je ne sais pas lequel est le plus important, finalement. Il y a eu la destruction de Byzance en 1453, donc quelques années avant l'exploit de Christophe Colomb. Et il y a presque tout de suite après la naissance du protestantisme. Si vous voulez, pour ceux qui croient dans l'éternel retour, la ruine de Byzance correspond à la ruine d'Israël. 2160 ans avant, et la naissance des sectes protestantes correspond à la naissance des sectes schismatiques de Samarie, etc. Bon. Enfin, nous laisserons maintenant l'éternel retour, nous allons traiter vraiment ce qui s'est passé depuis le XVe siècle. Je ne reviendrai pas sur ces parallélismes. Donc, ruine de Byzance, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire triomphe de l'autre partie de l'Église, c'est-à-dire Rome. Et quand nous parlerons de l'Église catholique, nous parlerons de Rome, évidemment, parce que Byzance est conquise par les Turcs, et c'est un tout autre problème. En revanche, les protestants, eux, sont un problème occidental qui nous concerne, qui concerne la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Angleterre, les pays bas, etc. Qu'est-ce que le protestant ? En réalité, il ne faudrait presque jamais dire le protestantisme, parce que dès le départ, il y a deux mouvements tellement différents qu'il est difficile de les confondre. Dès le début, dès 1510-1515, un moine, Luther, a commencé de s'élever contre les richesses, l'égoïsme, l'orgueil, l'ambition, les cruautés de l'Église catholique. Et il a essayé de créer une religion de réforme. Ça veut dire qu'il voulait réformer les vices de Rome. Il a émis quelques idées qui sont devenues des dogmes aussi, et donc qui ont donné naissance à une autre religion qu'on appelle le luthérianisme, du nom de Luther. Cette religion n'est pas anti-catholique positivement, elle n'est que réformatrice. C'est-à-dire qu'il aurait voulu, Luther aurait voulu, au début, modifier les vices de l'Église, mais peu à peu, il s'est éloigné de l'Église, au point qu'il s'est marié contre les vœux de chasteté, et donc voilà un moine marié qui... va d'ailleurs soutenir les princes, va soutenir une certaine violence à son tour, notamment contre les juifs. Il n'hésitera pas à dire qu'il faut tous les exterminer. Et c'est très clair. Je veux dire que tous les luthérianistes ne sont pas des anti-juifs, ne sont pas des tortionnaires, ne sont pas des défenseurs des prêtres, n'ont pas une vie luxurieuse. Mais tous sont pour une certaine libération de l'homme, une certaine libération de l'homme, de la femme, du couple, et l'attente d'une certaine liberté. Une certaine liberté qui finalement pourrait donner naissance à une autre forme de religion, à la limite. Qui ne serait pas seulement la religion du Christ, mais la religion de l'Esprit, du Paraclet qui doit suivre le Christ, qui doit venir après le Christ. Cette, cette attente pour Luther lui-même s'exprimait par le symbole de la rose et de la croix. La croix, évidemment, rappelle encore le catholicisme, le christianisme. Et la rose, c'est la rose des libertaires, c'est la rose de ceux, par exemple, des deux roses en Angleterre, du combat des deux roses en Angleterre. Et c'est donc l'arrachement à une certaine conformité trop étroite. Quant à l'autre mouvement protestant, il va suivre de peu, il va suivre vers 1530, 1535, une dizaine d'années plus tard, il va être l'œuvre d'un homme, Calvin. Calvin, et j'insiste peut-être là-dessus, qui est à l'opposé de Luther. Je veux dire que Luther est un homme fort, c'est une sorte de Gargantua. Peut-être que Rabelais le prendra comme modèle de son Gargantua. Somme énorme, qui a des appétits charnels, qui a besoin de femmes, qui adore boire, qui adore manger. Calvin est un homme malingre, petit, sans beaucoup d'appétit, apparemment. Ben, il épousera quand même à la fin de sa vie, mais ce sera une veuve et ce sera sur ses vieux jours. Et en tout cas, il déteste fondamentalement cette liberté-là. Ils sont la liberté sensuelle, rabelaisienne de Luther. Qu'est-ce qu'il appelle la liberté, Calvin ? Eh bien, il appelle, c'est presque à l'opposé. Pour Calvin, la liberté en question, c'est la liberté de Dieu. Ce n'est pas la liberté de l'homme, c'est la liberté de Dieu. Dieu, Jésus, le Christ, est un Dieu d'amour. C'est-à-dire qu'il aime les hommes, il sauve les hommes. Calvin dit peut-être que cet amour serait une sorte de restriction de la puissance divine. Si Dieu est obligé d'aimer, il n'est plus libre, il n'est pas libre. C'est le problème de Calvin. Il le résout d'une manière extraordinaire, il dit, bien oui, l'homme est libre. Il est libre d'aimer qui il veut. Il est libre de donner sa grâce à ce qu'il veut. Et si vous n'avez pas la grâce de Dieu, ben vous ne pouvez rien faire. Vous pouvez être aussi gentil que vous voudrez, vous pouvez donner tous vos biens à votre voisin, vous pouvez vous priver de femme ou de nourriture ou de boisson. Si vous n'avez pas la grâce, vous êtes perdu. C'est une religion terrible. C'est une religion terrible, mais qui va donner naissance à d'autres religions terribles, qu'on appellera en gros les sectes puritaines. Et dans ces sectes, eh bien, les hommes passeront un peu leur vie à adorer ce Dieu jaloux, parce qu'un Dieu qui aime et qui est libre, il est d'abord jaloux, il refuse que l'homme aime quelqu'un d'autre que lui, bien sûr. Dieu jaloux, Dieu terrible, et finalement, Dieu de la Bible, vous connaissez la Bible quand même, le livre des Juifs, le grand livre qui pendant 4000 ans, depuis 4000 ans, fait la vie, l'histoire des Juifs. Et justement, dans la Bible, Dieu était terrible aussi, c'était le Dieu qui punissait. Il lui arrivait de répandre ses grâces. Il donnait la manne à Moïse, ou il ouvrait en deux les eaux du Jourdain, il donnait son miracle quand il le voulait, mais généralement il était méchant. Méchant, non, pas méchant, juste, mais terrible. Il ne tolérait rien que ce qu'il avait ordonné, que ce qu'il avait voulu, que ce qu'il avait exigé. Et donc le calvinisme, le puritanisme de plus en plus va s'ouvrir à la Bible juive, c'est-à-dire à cette notion que tout doit être payé. C'est œil pour œil, dent pour dent. Tu m'as arraché une dent, je t'arracherai une dent, ou les deux. Tu m'as crevé un œil, je t'arracherai les deux yeux. Vous n'avez pas le droit d'être en dehors de la loi de Dieu, et puis finalement la loi des hommes. Et puis finalement la loi hébraïque, la loi de la Bible. C'est-à-dire que, pour être plus précis, nous allons voir les catholiques, bien sûr, et puis les luthériens aussi, croire en un Dieu esprit, difficile à cerner, difficile à approcher, mais qui doit être créé, qui doit être transformé peut-être, du Christ en esprit, qui est ouvert à l'avenir. Et puis les autres, les puritains, les calvinistes, les juifs aussi bien sûr, puisque c'est leur Dieu, vont défendre un Dieu de rigueur, un Dieu de justice, un Dieu de passion jalouse, et systématique. Alors que passe-t-il se passer ? Que s'est-il passé depuis le XVIe siècle ? Eh bien, c'est très simple. L'Europe va se partager constamment entre les deux courants. Quand les catholiques vont l'emporter, ça va être le cas par exemple sous Marie Tudor en Angleterre, sous les rois français bien sûr, surtout Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, les rois espagnols bien sûr, Philippe II, etc. Quand les catholiques vont dominer, les protestants vont être persécutés. Les protestants et les juifs, ils sont toujours persécutés ensemble. Ils vont être persécutés, il va falloir qu'ils quittent l'État, qu'ils quittent l'État européen où ils sont. Bon, on n'a plus idée, peut-être aujourd'hui, de ce qu'ont été ces dépeuplements, de ce qu'ont été ces exils, ces pogroms. Les dragonnades de Louis XIV, ont chassé des dizaines de milliers de protestants. Ils ont anéanti des villages du Midi. Ils ont persécuté tous ceux qui avaient une quelconque appartenance au Dieu de la Bible. Ils ont persécuté les jansénistes, bien sûr, les protestants, bien sûr, les camisards, on le sait. Ils les ont rejetés, ils les ont exterminés, ils les ont emprisonnés quand ils ne voulaient pas partir. Et ces hommes, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Eh bien, ils partaient en Angleterre quand l'Angleterre était protestante, ou ils partaient aux Pays-Bas. Et puis de là, quand de nouveau la persécution les continuait, ils partaient en Amérique. Mais à l'inverse, quand les protestants ont dominé en Europe, par exemple Calvin à Genève, ou Knox en Écosse, ou Cromwell en Angleterre, ou Élisabeth d'abord, la grande Élisabeth en Angleterre. Eh bien, c'était les catholiques qui étaient persécutés. Qui devait fuir, sous peine d'être exterminés. Et qu'est-ce que faisaient les catholiques? Qu'est-ce que faisaient les princes? C'était souvent des princes ou des gens de la cour, ou des nobles, ou des inventeurs, ou des créateurs. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Eh bien, ils partaient en Amérique. De telle sorte que lorsqu'on parle du peuplement de l'Amérique, il faut bien comprendre que ce peuplement est essentiellement constitué par des sectes puritaines, juives, protestantes d'une part, ou par des sectes, des mouvements, des religions, des religionnaires de droite, rétrograde, passéiste, mythique, etc. Voyons un peu ça dans le détail. Je vous ai dit qu'au départ, il y avait ces deux hommes, Luther et Calvin. Et bien sûr, de ces deux mouvements, sont nés très vite des multitudes de sectes. simplement parce que Luther et Calvin, tous les deux, étaient encore des hommes humains, je veux dire. C'était des hommes humains, c'était des gens intelligents, Les réformes que Luther veut apporter à l'Église ont du bon. Le raisonnement de Calvin, dans l'optique religieuse de Calvin, n'est pas faux, c'est une logique terrible, mais logique. Ce sont des gens... Bon, Calvin a tué des gens, il a persécuté des gens, il a jeté Michel Servet au bûcher. Bon, Luther disait qu'il fallait exterminer les Juifs, ce n'étaient pas des hommes bons. Mais à part ces excès, disons qu'ils ont été des hommes relativement modérés, qui savaient quelles pouvaient être les conséquences effroyables de leurs actes. Et finalement, la religion luthérienne, par exemple, qui a triomphé dans les Pays-Bas ou en Danemark ou dans les pays du Nord, est une religion affable, paternaliste, familiale, tranquille, douce, humaine. On accuse très peu, si ce n'est Luther lui-même, on accuse très peu le luthérianisme de persécution violente. Bien sûr, il voulait que leurs ennemis s'en aillent, mais enfin, il les brûlait pas, alors que l'Église de Rome brûlait ses ennemis. Calvin aussi, bon, je vous ai dit, il a fait brûler Michel Servet, qui était un authentique prophète, et Knox aussi en Écosse, et surtout Cromwell, Cromwell a fait couper la tête au roi d'Angleterre, c'était pas gentil, par exemple. Ils n'ont pas fait des choses toujours gentilles. Mais enfin, dans l'ensemble, le calvinisme suisse, par exemple, qui domine là depuis 6 siècles, n'est pas monstrueux. C'est un pays agréable à vivre, humain, tranquille et... Il a donné naissance à de très grands artistes, à de très grands écrivains, entre autres, ou à de très grands penseurs. Et des hommes libertaires, comme Voltaire ou Rousseau, ne craignaient pas de s'y réfugier, un certain nombre. Donc, je dis, ces hommes et ces religions, ces grandes sectes, sont encore humaines. Mais, dès qu'il y a secte nouvelle, ben, il y a des disciples qui naissent et qui peuvent être terribles, qui peuvent être fous même, fous. Luther disait, il faut un nouveau roi aux hommes, il faut un nouveau roi, mais il disait un roi du ciel, il disait un nouveau Dieu. Certains ont pris ça à la lettre, ils ont dit, il faut créer maintenant un Dieu, un homme Dieu. Et il y a eu, dans des villes allemandes, des sectes nées du luthérianisme, ou en marge du luthérianisme, les anabaptistes par exemple, ou à Münster, par exemple, le village de la ville de Münster, un homme, Jean Lède, a pris le titre de roi et a essayé d'imposer sa loi, même aux princes allemands qui ont fini bien sûr par détruire Münster. Bon. C'est un exemple, il y en a eu bien d'autres, il y a eu des violences de tous les côtés. Et à l'inverse, nous avons vu que Calvin a donné naissance à des mouvements moins humains, plus rigoureux, plus... Je vous en citerai des quantités, mais ce n'est peut-être pas la peine. Enfin, il faut citer les principaux. Il y a les Arminiens, par exemple. Il y a les Uniates, de deux frères allemands. Et ces sectes, donc au XVIe siècle, vont généralement triompher avec arrogance, avec violence, avec massacre, et finalement être rejetées par les États qui trouveront que c'est assez, ça suffit comme ça. Et ces sectes, qu'est-ce qu'elles feront? Eh bien, elles vont partir en Amérique.